La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, aujourd'hui mercredi, troisième épisode de notre série consacrée à l'écrivain normand Guy de Maupassant. Je n'ai pas de sentiments, je suis un garçon simple qui vit comme un ours, écrivait Maupassant à l'une de ses admiratrices. S'il a vécu comme un ours, c'est en partie à cause de l'ennui, de la dépression puis de la maladie qui l'ont étreint. S'il était un garçon simple, c'est qu'il aspirait surtout à faire du sport, canoter et écrire évidemment de la très bonne littérature. Nous en parlions lundi avec Frédéric Martinez. Hier, c'est Antonia Foni qui était dans ce studio pour nous parler d'Une vie, grand roman de la déception qui fait écho à Madame Bovary, de son grand ami Flaubert. Demain, nous parlerons des prostituées qu'a beaucoup fréquenté Maupassant. Ce sera avec Daniel Grojnowski, après être revenu sur la question de la folie et de l'angoisse chez l'auteur de Belle Amie, cette fois avec Patrick Wald-Lazowski. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, arrêtons-nous quelques instants, quelques minutes sur des contes et des nouvelles de Maupassant, ainsi que les thématiques qui y sont liées. Mon invité d'aujourd'hui est Martine Reed, spécialiste de la littérature du 19e siècle, mais aussi de la présence des femmes dans cette littérature. Elle a préfacé et annoté le gros volume des contes et nouvelles de Maupassant, paru chez Gallimard en 2014 dans la collection Quarto, et dans lequel on peut lire, parmi beaucoup d'autres, le célèbre conte « La parure ».
Quand Madame Loisel rapporta la parure à Madame Forestier, celle-ci lui dit d'un air froissé « Tu aurais dû me la rendre plus tôt, car je pouvais en avoir besoin. » Elle n'ouvrit pas les crins, ce que redoutait son amie. Si elle s'était aperçue de la substitution, qu'aurait-elle pensé? Qu'aurait-elle dit? Ne l'aurait-elle pas prise pour une voleuse? Madame Loisel connut la vie horrible des nécessiteux. Elle prit son parti d'ailleurs tout d'un coup, héroïquement. Il fallait payer cette dette effroyable, elle payerait. On renvoya la bonne, on changea de logement, on loua sous les toits une mansarde. Le mari travaillait le soir à mettre au net les comptes d'un commerçant et la nuit, souvent, il faisait de la copie à 5 sous la page. Et cette vie dura 10 ans. Au bout de 10 ans, ils avaient tout restitué, tout, avec le taux de l'usure et l'accumulation des intérêts superposés. Que serait-il arrivé si elle n'avait point perdu cette parure? Qui sait, comme la vie est singulière, changeante, comme il faut peu de choses pour vous perdre ou vous sauver.
Bonjour Martine Reed.
Bonjour.
La parure, nouvelle terrible, comme d'ailleurs souvent les nouvelles de Maupassant, est-ce que vous l'aimez en particulier?
Oui, je pense qu'elle est particulièrement réussie et qu'elle donne d'ailleurs très bien le ton de l'ensemble des nouvelles. Il faut rappeler qu'il y a là une œuvre absolument prodigieuse, inégalée d'ailleurs, plus de 300 contes et nouvelles, et on ne discutera pas des appellations qui peuvent être choisies pour les appeler. En tout cas, la parure a pour premier intérêt d'abord de rappeler qu'il n'y a pas de mot passant sans journalisme, puisque bien entendu cette nouvelle paraît dans un journal de l'époque, le Gaulois, qui est à ce moment-là très célèbre.
On pourra dire un mot juste du style qui est un style précisément inspiré du style journalistique dans les nouvelles de Maupassant, mais sur la parure et le thème,
oui,
finalement,
et sur le thème de la parure,
de
puisque vous
nouvelle.
Y conduisez. Je pense que justement, le thème de la parure décrit admirablement ce qui, au fond, est à mon sens vraiment la pierre angulaire de la position de Maupassant en littérature, c'est-à-dire le principe de la désillusion systématique, de l'absurde, du dérisoire, de la dérision. On a dit qu'il y avait chez Maupassant un pessimisme absolument extraordinaire. Lui-même le dirait, il l'a dit d'ailleurs, se revendiquant de Schopenhauer. Mais dans l'ensemble, on voit que systématiquement, à de très très rares exceptions près, les nouvelles pivotent toujours dans la désillusion à la fin et évidemment son caractère dérisoire.
Alors, racontons rapidement de quoi il s'agit. C'est un couple qui se ruine pour rembourser un bijou prêté par une amie assez éloignée, tout de même de ce couple, parure empruntée pour se rendre dans un bal et qui a été perdue au cours de ce bal. Et on apprend à la fin de la nouvelle que cette ruine sera en pure perte puisque le bijou en question était un faux. C'est donc un conte qui laisse, comme souvent chez Maupassant, ouvert de nombreux types d'interprétations. On peut en tirer beaucoup de conclusions, Martine Reed, sur ce qu'a voulu dire Maupassant et sur la trajectoire des personnages.
Tout à fait, et je pense qu'on l'entend bien d'ailleurs dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, c'est-à-dire Maupassant dit « la vie est singulière et changeante ». C'est-à-dire que peut-être que cette histoire si mal commencée, elle a duré 10 ans tout de même, mais pourrait bien se terminer par une sorte de réconciliation avec les amis. Peut-être aussi que non, décidément, la vie est passée et le poids de cette pauvreté imposée est absolument insoulevable et on n'imagine pas de résolution satisfaisante. Bref, on voit qu'il y a toujours chez Maupassant, comme vous le disiez bien, cette possibilité d'ouverture et d'interprétation diverses. En même temps, le récit est là, posé, il est tragique, assurément, et ils le sont largement.
Est-ce que ça signifie que Maupassant ne cherche pas à dire quelque chose en particulier, à avoir une thèse et à la défendre ?
Oui, on voit, on entend chez Maupassant dans sa correspondance, un peu notamment avec les lettres adressées à Flaubert, que Maupassant n'aime pas tout ce qui serait maîtrisé, rigide, parfaitement clair. Il n'aime pas le réalisme pour cette raison, il n'aime pas le naturalisme non plus pour cette raison. Il a l'idée, qui est évidemment en partie liée à sa pratique journalistique, qu'il faut faire vite, qu'il faut faire bref, qu'il faut faire efficace, et que le lecteur, et ça c'est d'ailleurs une idée de Flaubert, le lecteur décidera.
Il y a quand même quelque chose d'intrigant dans cette nouvelle La Parure, c'est que à la fin, tout est basé sur un faux, tout est basé sur un bijou qui n'a pas de valeur. Est-ce que ce n'est pas cela, tout de même, au fond, ce sur quoi cherche à nous faire réfléchir Maupassant, la question du faux et la question de la valeur, Martine Reed?
Tout à fait. Et on peut rappeler que ce même thème existe chez Baudelaire, dans La fausse monnaie, par exemple, que c'est un thème qui, évidemment, a partie liée avec la littérature. Jusqu'à quel point est-on toujours dans le faux ou nécessairement dans le vrai? Voilà des questions qui peuvent être débattues.
Alors, vous êtes donc occupé, Martine Reed, de l'édition de ce très, très gros volume de contes et nouvelles chez Maupassant. Qu'est-ce qui a changé chez vous entre le début et la fin de ce travail? Est-ce que vous vous souveniez, avant d'avoir commencé à rédiger la notice et aussi la vie de Maupassant qui est insérée au début de ce volume, est-ce que vous vous souveniez de l'image que vous aviez de ces contes? Parce que c'est des contes qu'on lit souvent au collège, au lycée. Et finalement, qu'est-ce qui a changé après avoir effectué ce travail?
Mais un certain nombre de choses. D'abord, je pense l'effet de quantité, puisque on ne lit pas les nouvelles à la suite, parce que ça demande un temps absolument considérable. On a tous à l'esprit quelques-unes, y compris celles qui ont été portées au cinéma, une partie de campagne, par exemple. Boule de Suif paraît absolument indispensable à toute formation. Je n'avais pas mesuré, je pense, d'une part la masse, parce qu'on sait bien qu'il y a plusieurs volumes Pléiade que l'on doit d'ailleurs à Louis Forestier, mais les lire à la suite donnent une idée, je pense, beaucoup plus tragique de l'ensemble. Et j'ai été frappée, justement, le pessimisme, on sait bien qu'il existe, mais quand on les lit, les nouvelles, les unes après les autres, c'est vraiment pesant dans tous les sens du terme. On est attiré vers le fond. Ça rappelle une des premières nouvelles qui s'appelle « Au fil de l'eau », et où on est justement dans une barque, et où tout d'un coup la barque s'arrête, et en fait on a heurté le cadavre d'une vieille femme qui, semble-t-il, s'est suicidée, puisqu'on la retrouve la corde au cou avec une pierre attachée à cette corde. Et donc, on a un peu l'impression que, et ça c'est une des toutes premières nouvelles, la deuxième, si je me souviens bien, on a l'impression que c'est ça, au fond, le massif des contes et nouvelles.
Mais c'est assez étonnant parce que, et là on voit qu'il y a beaucoup de niveaux de lecture chez Maupassant, ce sont des contes qu'on lit beaucoup adolescents. Et on ne se rend pas compte, en les lisant jeunes, à quel point il y a un pessimisme, à quel point il y a une obsession presque de la folie, en tout cas de la déchéance, une désillusion dans ces contes-là. Il y a dans le succès de ces contes quelque chose de très paradoxal finalement.
Oui, que certains critiques ont bien montré en disant qu'au fond, il y avait une facilité apparente chez Maupassant qui en partie dessert l'œuvre. Évidemment, ça explique la raison pour laquelle, quand on s'y remet plus soigneusement ensuite, on s'aperçoit que c'est compliqué, qu'effectivement, et vous le disiez, il y a cette lecture à plusieurs niveaux. On ne s'étonne pas, par exemple, que quelqu'un comme Grémas ait choisi les deux amis pour faire carrément pour composer sa sémantique structurale, tellement c'est riche en réalité, c'est remarquablement habile aussi. Et donc, en même temps, je pense que c'est l'intérêt des nouvelles de Maupassant de permettre toutes sortes de lectures à toutes sortes d'âges et de niveaux.
C'est la compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Guy de Maupassant avec Martine Reed. On a commencé cette émission avec La Parure, dont l'héroïne finalement a connu un furtif moment de bonheur, mais très court. C'est cette soirée où elle est très belle avec sa parure et observée, regardée, enviée, admirée de tous. Mais évidemment, très rapidement, ce bonheur s'efface. Et les femmes, chez Maupassant, peuvent connaître le bonheur, mais c'est souvent de courte durée, Martine Reed.
Oui, alors c'est sûr que Maupassant a sur le féminin des vues qui sont certes celles de son temps, c'est-à-dire très profondément misogynes, mais je pense qu'il ajoute toutes sortes d'éléments de plus.
Alors qu'est-ce qui est misogyne, oui, déjà peut-être pour commencer?
C'est la façon de les montrer toujours emballées pour justement pour un colifichet, pour une broutille. Cette capacité qu'elles ont,
pour
c'est touchant. Oui, c'est ça. À la limite, ce pourrait être charmant un peu, mais en tout cas, évidemment, elles sont justement futiles, frivoles, nécessairement, ou alors elles sont prostituées et on entre dans un autre monde, assurément. Mais dans l'ensemble, il y a cette idée chez Maupassant que le féminin est très distinct du masculin, que bien sûr le masculin ne peut n'y comprend rien. Et que justement cette mise à distance qu'on entend de toutes les façons dans les nouvelles sert le masculin, bien sûr.
Elles sont rusées, par exemple, les femmes dans La Confession. La jeune Laurine d'Estelle est présentée comme une de ces petites parisiennes précoces qui semble née avec toute la science de la vie, avec toutes les ruses de la femme. On ne sait pas si c'est un compliment ou pas, justement, cette ruse de la femme dans la bouche de Maupassant.
Ce n'est pas un compliment, c'est un cliché qui a servi encore et encore, évidemment, et que Maupassant ne manque pas de reprendre. Je pense que son idée n'est certainement pas de revenir sur les clichés existants, ni pour les messieurs d'ailleurs, ni pour les dames, les femmes, les petites dames, etc. Ce n'est pas son intention.
Elles sont curieuses aussi, ça non plus, on ne sait pas très bien si c'est une bonne ou une mauvaise chose, comme dans Une aventure parisienne, où il est question de la volonté de savoir des femmes. Je ne sais pas si vous avez en tête.
Oui, je l'ai en tête. Oui, enfin, c'est la même chose. On voit bien que là, il exploite. Ça a été dit par la critique. Assurément, Maupassant exploite des types, exploite des clichés. Je pense que ce serait mon avis de lectrice. L'intérêt n'est pas là, parce qu'au fond, l'originalité véritable n'est pas là. Là, il brasse des clichés, il brasse des types. Le paysan normand, le notaire de province, le parisien petit employé dans un ministère, ça, il s'en souvient puisqu'il l'a lui-même été, etc. Et au fond, l'intérêt est plutôt du côté de la composition, du côté du style, de cette manière très enlevée de construire les intrigues, etc.
Et puis les personnages de femmes, elles sont confrontées aussi à la découverte de la dure loi du mariage, comme le personnage de Jeanne dans le roman Une vie.
Veux-tu faire un tour avec moi, fillette ? Comme tu voudras, papa. Ils sortirent. Dès qu'ils furent devant la porte, du côté de la mer, un petit vent sec les saisit. Un de ces vents froids d'été qui sentent déjà l'automne. Des nuages galopaient dans le ciel, voilant puis redécouvrant les étoiles. Le baron serrait contre lui le bras de sa fille en lui pressant tendrement la main. Ils marchèrent quelques minutes. Il semblait indécis, troublé. Enfin, il se décida. « Mignonne, je vais remplir un rôle difficile qui devrait revenir à ta mère, mais comme elle s'y refuse, il faut bien que je prenne sa place. J'ignore ce que tu sais des choses de l'existence. Il est des mystères qu'on cache soigneusement aux enfants, aux filles surtout, aux filles qui doivent rester pures d'esprit, irréprochablement pures jusqu'à l'heure où nous les remettons entre les bras de l'homme qui prendra soin de leur bonheur. C'est à lui qu'il appartient de lever ce voile jeté sur le doux secret de la vie. Mais elle, si aucun soupçon ne les a encore effleurés, se révolte souvent devant la réalité un peu brutale cachée derrière les rêves. Blessée en leur âme, blessée même en leur corps, elle refuse à l'époux ce que la loi humaine et la loi naturelle lui accordent comme un droit absolu. Je ne puis t'en dire davantage, ma chérie. Mais n'oublie point ceci, que tu appartiens tout entière à ton mari.
Extrait d'Une vie, lu par Chloé Lambert. Alors Une vie, ce n'est ni un conte, ni une nouvelle, c'est un roman, le premier roman de Maupassant, on en a parlé longuement hier, mais sur le thème de la femme, on peut retrouver, que ce soit dans ce roman comme dans les nouvelles, une tonalité qui est la même, Martine Reed.
Ah oui, tout à fait, oui. Au fond, de ce point de vue-là, une vie élargie et grossie, un discours qu'on entend de mille manières, hein, je pense que c'est une espèce de mosaïque d'idées qu'a Maupassant sur le féminin, sur l'obligation, après tout, du masculin et du féminin, mais du masculin d'une autre manière, de se plier à ce qu'il appelle la loi naturelle, l'expression est étonnante.
Qu'est-ce qu'elle signifie dans sa bouche? C'est une autre
imagine,
époque aussi.
Oui, ah. Oui, c'est une autre époque. Alors, ce qui étonne, c'est que ce qu'elle signifie dans sa bouche, je ne sais pas exactement. Enfin, je suppose la nécessité pour la femme de se plier au dit devoir conjugal. Mais ce qui est intéressant, c'est que Maupassant reproduit là, de manière certainement volontaire, les formes les plus traditionnelles de la conception du mariage dans la petite aristocratie, dans le cas d'une vie, et dans ou d'ailleurs dans toutes les classes sociales, dans le cas de l'ensemble des nouvelles. Ça étonne évidemment parce que dans les années 1880, le féminisme existe depuis un moment, que des romans qui ont prouvé le contraire existent aussi. Il n'y a pas de nouveau de son point de vue, il n'y a aucune raison, il n'y a aucun intérêt, et il n'y a aucune volonté de contester de quelque manière que ce soit la situation. Et en cela, il est effectivement exactement le disciple de Flaubert.
Exactement, oui.
Oui, absolument. C'est-à-dire, on expose Et le lecteur, la lectrice, en dira le parti qu'il ou elle veut. Alors on expose des situations qui sont généralement très embarrassantes, embarrassantes d'ailleurs pour le masculin comme pour le féminin. Ça, c'est quelque chose qui est rappelé sans cesse. Et on peut croire d'ailleurs qu'il y a chez Maupassant la conviction qu'au fond, mis à part peut-être l'acte sexuel et encore de manière tout à fait fugace et furtive, le masculin et le féminin n'ont rien à faire ensemble. Au fond, ne se comprennent pas, appartiennent à des univers totalement différents, sur lesquels il y a peu de chances de les voir jamais s'accorder, même sauf sur ce seul point, et encore pour autant qu'ils ne soient pas ratés, ce qui se passe nombre de fois aussi dans ces nouvelles.
Et quelle serait justement la nouvelle un petit peu illustrative de ce que vous venez de dire, ou les nouvelles ?
Alors là, c'est un peu
difficile.
Il y en a
tellement.
Il y en a beaucoup, oui, il y en a beaucoup. Je pense qu'on entend ça, par exemple, c'est vrai, dans une partie de campagne, puisque là, dans une partie de campagne, on a ce qui est en réalité, je le relisais, une scène de viol.
Ouais.
Qui va être vécu comme un moment inoubliable par le violeur et par la jeune femme qui s'est fait violer avec... un consentement dans un deuxième temps.
Mais qui devient amoureuse finalement.
Mais qui,
de son violeur.
Oui, alors ça aussi, on est dans le cliché pur, bien analysé par ailleurs. Mais en tout cas, voilà un ratage complet. Puisque, évidemment, à la fin, elle se marie quand même, etc. Alors là, on retrouve des choses qui ont déjà été évoquées, c'est-à-dire ce principe de la désillusion, de l'absurdité de l'existence, puisque pour quelques raisons, généralement infimes, il y a un moment léger de satisfaction, mais là aussi, il est éphémère. Et bien sûr, à la fin, on retrouve la désillusion très très profonde et comme une blessure dont on ne se guérira jamais.
Mais lui, tout de même, est plutôt du côté du masculin que du féminin. Les nouvelles, même s'il y a beaucoup de femmes, sont plutôt masculines, d'une manière générale, Martine Reed.
Oui, alors ça c'est une question difficile. Je pense que ce qu'on entend chez Maupassant, c'est le caractère extrêmement masculin de la littérature à cette époque, dans ce milieu auquel il appartient. Hein, vous voyez que je mets toutes sortes de conditions. Je pense que si on regarde la trajectoire de Maupassant, on s'aperçoit que bien sûr, il se cherche un mentor, il commence par la poésie, qui est encore le grand genre, il se rêve en Louis Bouillet, compagnon, véritable âme sœur ou frère de Flaubert. Ensuite, évidemment, il appartient à un petit cercle d'écrivains. Les femmes n'y sont pas admises. Or, des femmes en littérature, il y en a environ 20% à l'époque, dont il n'y a pas trace, évidemment, chez Maupassant. Et donc, il y a vraiment une conception masculine de la littérature, ce que les critiques ont appelé justement l'homosocialité, hein, qui est là partout à l'œuvre et véritablement jusqu'au bout.
Il faut effectivement rappeler que tout ce qui concerne la sexualité chez Maupassant ne peut pas être compris en dehors de l'analyse de la sexualité au XIXe siècle.
Bien entendu. Ça, je pense que, encore que lui soit peut-être un épiphénomène, c'est-à-dire que c'est toujours dangereux de penser, et là, on met les historiens en garde, c'est toujours un peu difficile de penser à partir de représentations littéraires qui ont quand même leur logique à elles et leurs exemples aussi dans le passé. Mais chez Maupassant, il y a évidemment des partis pris. Et pourquoi pas, après tout, des partis pris d'ailleurs sur lesquels il raisonne beaucoup. Ce n'est pas non plus de l'ordre de quelque chose qui lui viendrait naturellement. Il raisonne sur ses partis pris, il les accepte, il les met en scène.
Mais cette époque quand même de Maupassant, c'est une époque où en littérature, et peut-être pas seulement en littérature, on va s'intéresser par exemple à l'homosexualité qui scandalise et qui fascine. Et ça forcément, c'est... l'une des choses qui va le titiller dans sa littérature, peut-être même dans sa vie d'ailleurs, je ne sais pas.
Dans sa vie sûrement, puisqu'on sait désormais que Maupassant était bisexuel et qu'il a eu des relations avec ses camarades de canotage. On en a des lettres aujourd'hui, on le sait de manière certaine. Je pense que justement, on sait aussi qu'il a joué en travesti dans une pièce à la Feuille de Rose, pièce turque qui avait beaucoup plu à Flaubert. Il y a quelques personnes qui y assistaient, il y a eu plusieurs représentations. Donc du côté de la biographie, je pense qu'on sait, grâce entre autres à la très grosse biographie de Marlowe Johnston, parue chez Fayard en 2012 et qui fait 1300 pages. Donc là, je pense qu'on sait à peu près tout sur Maupassant. Donc il y a chez Maupassant une partie qui est bien celle d'un point de vue homosexuel systématiquement reconnu.
Et qui rejoint la camaraderie et la recherche du père.
Et qui rejoint tout à fait la camaraderie
littéraire.
Ah oui, ça c'est... On peut le dire aujourd'hui. Donc c'est un moment où effectivement il y a un discours fort autour de la camaraderie, des écoles, des cénacles, etc. Quand on voit les hommes de lettres qui gravitent autour des Goncourt, par exemple, autour de Zola aussi, enfin, là, alors que les femmes, il y en a, je le répète, elles sont minoritaires, mais tout de même, on ne les voit pas dans ces groupes-là, et donc il y a certainement la volonté de renforcer encore, peut-être d'ailleurs parce que les femmes commencent à être un peu plus visibles, le côté extrêmement masculin de l'activité littéraire. Alors, si on l'entend dans la vie de Maupassant, on l'entend pas trop dans les nouvelles, où semble-t-il, selon une tactique assez connue, Maupassant essentiellement interroge le couple masculin-féminin. Couple qui lui permet justement de montrer à quel point le ratage est partout.
Et alors ces femmes dont vous parlez, il y en a quelques-unes dont on peut citer le nom, Juliette Adam, Marie-Paul Courbe, il y a même Marie Bashkirtseff. Vous avez consacré d'ailleurs un petit volume de leur correspondance chez Actes Sud. Donc quand même, il voit un petit peu un certain nombre de femmes artistes de son époque. Il a quand même des relations avec elles.
C'est-à-dire qu'il a des relations un peu accidentelles avec elle, puisqu'en réalité, et c'est le cas pour Marie Bashkirtseff, qui deviendra peintre et puis qui meurt de la tuberculose alors qu'elle est très jeune et que son œuvre est très prometteuse. Ces femmes lui écrivent. C'est le cas aussi pour Marie-Paul Courbe, qui était sculptrice et qui va en réalité se faire appeler Gisèle Destocq, poser en homme, etc. Là, on a de nouveau une relation bisexuelle, puisque Maupassant ensuite l'entraîne dans toutes sortes d'activités et de fêtes diverses. C'est la littérature qui le met, lui, Maupassant, en contact avec ces femmes. Et d'ailleurs, il va imaginer une nouvelle très jolie, dont j'oublie le titre à l'instant, dans laquelle il imagine un écrivain célèbre qui se fait en quelque sorte draguer par une lectrice.
Ça pouvait lui arriver.
Oui,
aussi.
Voilà, c'est ça. Et donc, évidemment, il se dit qu'il doit être dans son rôle, il l'emmène chez lui, et c'est le fiasco assuré, parce que la lectrice imagine quelque chose d'extraordinaire. Lui, il a l'habitude de coucher avec toutes celles qui passent. Et là aussi, on a un très beau ratage qui prouve que, évidemment, tout ça est irréconciliable et que, décidément, les mondes féminins et masculins fonctionnent sur des modèles différents.
Dans la voiture, on se regardait curieusement. Par un hasard étrange, toutes les honnêtes femmes se trouvaient sur le même banc. En face des deux religieuses, un homme et une femme attiraient les regards de tous. L'homme, bien connu, était Cornudet le Démoc, la terreur des gens respectables. Depuis 20 ans, il trempait sa barbe rousse dans les bocs de tous les cafés démocratiques. La femme, une de celles appelées galantes, était célèbre par son embonpoint précoce qui lui a valu le surnom de boule de suif. Petite, ronde de partout, grâce à l'art, avec des doigts bouffis, étranglés aux phalanges, pareils à des chapelets de courtes saucisses, avec une peau luisante étendue, une gorge énorme qui saillait sous sa robe, elle restait cependant appétissante et courue, tant sa fraîcheur faisait plaisir à voir. Sa figure était une pomme rouge, un bouton de pivoine prêt à fleurir, et là-dedans s'ouvraient en haut des yeux noirs magnifiques, ombragés de grands cils épais qui mettaient une ombre dedans. En bas, une bouche charmante, étroite, humide pour le baiser, meublée de quenottes luisantes et microscopiques. Elle était de plus, disait-on, pleine de qualités inappréciables. Aussitôt qu'elle fut reconnue, des chuchotements coururent parmi les femmes honnêtes et les mots de prostituée, de honte publique furent chuchotés si haut qu'elle leva la tête. Alors elle promena sur ses voisins un regard tellement provocant et hardi qu'un grand silence aussitôt régna et tout le monde baissa les yeux, à l'exception de Monsieur Loiseau qui la guettait d'un air émoustillé.
extrait lu par Guillaume Gallienne de la célèbre nouvelle de Maupassant, Boule de Suif, Maupassant dont nous parlons dans la compagnie des auteurs avec Martine Reed. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'intrigue de cette nouvelle?
Oui, donc c'est certainement la nouvelle la plus connue de Maupassant, celle qui paraît dans les soirées de Médan. C'est la première, enfin il en avait fait deux ou trois avant, mais ben, celle-là est vraiment la première, comme vous dites, qui le lance. C'est l'histoire d'une prostituée qui est entourée de bourgeois, rouennais d'ailleurs. L'idée c'est de quitter la ville, pour ça il faut la possibilité, ça se passe en 1870, donc il faut des permissions. Un Prussien qui passe par là dit que la condition de cette permission à quitter la ville, c'est franchir quelques barrages, j'ai oublié le détail, c'est qu'il puisse passer la nuit avec Boule de Suif. Celle-ci se récrit, évoque le patriotisme et à la fin, évidemment, cède.
Sous la pression
des bourgeois. De ceux qui sont avec elle dans la diligence. Et le lendemain, effectivement, alors qu'on lui a fait fête dans un premier temps et qu'on a mangé ce qu'elle avait dans son panier pour le déjeuner, on la boude et on considère qu'évidemment elle s'est conduite comme une femme de mauvaise vie, qu'elle est de toute façon, et la condamnation est totale. Alors cette histoire est intéressante d'abord parce qu'elle est totalement improbable. Elle est à la fois extrêmement réaliste et les détails en sont admirables, mais elle est évidemment fruit de l'imagination de Maupassant. Et ce qui est intéressant, j'avais repéré un détail en relisant en Boule de Suif, c'est que Maupassant lui-même explique qu'il y a un moment avant qu'elle n'accepte de passer la nuit avec l'officier prussien, il y a un moment donné où chacun invente des histoires d'héroïsme qui sont parfaitement fantaisistes, et donc chacun en fait, dit Maupassant, transforme le réel à sa fantaisie. Et je pense que là on a une sorte de clin d'œil intéressant à ce que Maupassant fait lui-même, évidemment, dans sa propre nouvelle.
Et ça pose la question de la réalité et de la fiction, du réalisme, au fond, des nouvelles de Maupassant, Martine Reed.
Oui, alors là, le réalisme de Maupassant a fait couler beaucoup d'encre, comme Boule de Suif d'ailleurs. On sait bien que lui-même a dit qu'au fond, il n'était intéressé par aucune sorte d'école, donc le réalisme non, le naturalisme non plus, le romantisme certainement pas, il est trop tard, et qu'au fond, il dit à Flaubert, soyons l'origine de quelque chose, essayons de penser quelque chose de neuf. Et lui-même utilise très volontiers le mot qui est très beau, qu'il faut, je pense, qui éclaire d'un jour tout à fait intéressant sa production, c'est-à-dire l'illusion.
D'ailleurs, vous avez intitulé votre préface l'illusion, une illusion du monde, simplement une illusion du monde.
Et je pense que ça, c'est vraiment une très belle définition de ce qu'est la littérature, d'ailleurs.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Martine Reed, nous allons continuer de parler de Maupassant dans la compagnie des auteurs. Mais d'abord, comme chaque jour, c'est le moment d'En compagnie des revues avec aujourd'hui Pierre Cros du réseau social littéraire Babelio. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu, bonjour Martine.
Et vous souhaitez nous faire un bilan, hein, tout simplement, de l'année 2016 sur Babelio.
Oui, on va sortir quelques minutes du 19e siècle. Alors je ne vais pas vous parler des meilleures ventes.
Vous avez regardé quand même Maupassant sur Babelio?
Il y a beaucoup de lecteurs, il y a beaucoup de choses assez régulièrement sur les livres qui sortent, sur les biographies, même sur sa production.
Alors moi, pas qu'en 2016, alors c'est 2016 qui vous intéresse.
Non, effectivement. Alors moi je vais vous parler des ouvrages, donc pas des meilleures ventes de l'année 2016, mais des ouvrages qui ont séduit les lecteurs. On a publié en fait sur Babelio une liste, un classement qui regroupe les 16 ouvrages les plus populaires parmi les membres de Babelio. Donc vous pouvez retrouver donc l'intégralité du classement sur le site. Alors un élément ressort, c'est la place très importante de la production française. Parmi les 16 livres les plus populaires, 13 sont issus d'une plume française. Alors parmi ces ouvrages, on retrouve des genres assez différents les uns des autres, même si le polar, le roman policier dans son ensemble, semble dominer ce classement. On retrouve les grands maîtres du genre tels que Michel Bussy, qui a publié, qui est un Normand aussi d'ailleurs, qui a publié Le Temps est assassin aux Presses de la Cité. Alors l'action ne se déroule pas en Normandie, comme c'est souvent le cas dans sa production, mais en Corse, cette fois-ci. On retrouve également dans le classement Pierre Lemaître, qui revient au polar après son Goncourt 2013. Donc là, il est revenu en 2016 avec Trois jours et une vie. Le livre est sorti chez Albin Michel.
Alors 2016, a-t-elle, Pierre, été une année riche en premiers romans ?
Eh bien oui, c'est l'un des autres faits très intéressants de cette année. Le roman le plus populaire sur Babelio, c'est un premier roman. Il s'appelle En attendant Beau Jungles, d'Olivier Bourdeau. Il est publié chez la petite maison bordelaise Finitude. Il a sur le site, c'est assez impressionnant, il a 2000 lecteurs et une excellente moyenne de 4,1 sur 5. Alors j'avais déjà eu l'occasion d'en parler ici, même à cette antenne, il y a quelques mois maintenant. Il venait de sortir à l'époque. Il avait déjà de nombreuses critiques assez enthousiaste. Et depuis, c'est devenu un énorme phénomène de l'édition et des milliers de lecteurs ont entamé cette danse aux côtés de ce couple qui sombre peu à peu dans la folie. Mais alors le livre qui n'a peut-être pas forcément le plus de lecteurs dans notre classement, mais qui a la meilleure moyenne, c'est Petit Pays de Gaël Faye, avec une moyenne de 4,42. Je ne sais pas si vous l'avez lu.
4,42 sur 5.
Beaucoup d'auteurs aimeraient avoir cette moyenne-là. Donc il y a 1500 lecteurs. Alors il s'agit encore une fois donc d'un premier roman qui est centré cette fois sur le génocide au Burundi. Il est publié chez Grasset. Il était publié chez Grasset en septembre et il a depuis raflé à peu près la moitié des prix littéraires d'automne.
Alors vous n'avez pas mentionné de bande dessinée, c'est normal?
Non, effectivement, c'est la grande absente de ce classement. Il faut dire que en fait beaucoup de BD sortent à la fin de l'année, à Noël, et donc elles n'ont peut-être pas forcément le temps de gagner les faveurs de nos lecteurs. Il y a eu des grandes sorties tout de même cette année, comme Les Aventures de Mickey, qui ont été proposées cette fois par des auteurs français. C'est une grande nouveauté. Quatre aventures ont été publiées, notamment par Cosset ou par Loisel, donc c'est vraiment des grandes plumes françaises. C'est publié chez Glénat. Et alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant elles sont publiées aux États-Unis. Donc voilà, il y a une espèce de boucle. Et puisque les grands héros ont la peau dure, 2016 a également été l'année de Lucky Luke. Il y a deux albums qui ont été publiés. Les Aventures officielles d'un côté, écrites par Jules et dessinées par HD. Elle s'intitule La Terre Promise et ça a été le plus gros tirage de l'année en bande dessinée.
Et alors, côté monde du livre, si l'on peut dire, est-ce que 2016 a été une bonne année pour l'édition du livre et des bandes dessinées aussi?
Alors c'est un peu tôt pour répondre pour le secteur du livre, on en saura un peu plus lors du salon Livre Paris qui se tiendra en mars. Et pour le secteur de la BD, on a déjà quelques éléments. Dans l'ensemble, l'année a été plutôt positive avec une légère progression des ventes par rapport à 2015, même si, comme le souligne l'Association des critiques et journalistes de bandes dessinées, la CBD, dans son rapport annuel, seuls quelques titres réalisent l'essentiel du chiffre d'affaires dans ce secteur. C'est souvent le cas malheureusement même en littérature. Et alors en ce qui concerne la BD, dernière chose, il y a un grand événement à ne pas manquer, c'est le 44e festival de la BD d'Angoulême. Il se tiendra à la fin du mois, du 26 au 29 janvier. Il sera évidemment question des grandes sorties de 2017. L'équipe de Babelio sera présente. Alors on vous donne rendez-vous sur le site pour suivre tout ça de très près.
Voilà, babelio.com. Merci beaucoup Pierre, à très bientôt. Des auteurs reprend sa route dans le sillage de Guy de Maupassant. Nous sommes avec Martine Reed qui a préfacé le quarto Contes et Nouvelles de l'écrivain normand, qui était aussi l'écrivain de la peur. C'est en tout cas comme ça que le voyait Marcel Schneider en 1966.
La peur, c'est l'appréhension et en même temps la traduction du malaise intérieur dans lequel vivent la plupart des individus, et surtout Maupassant, qui a toujours été finalement très mal à l'aise dans sa peau. C'est pas de sorte que la peur a toujours existé chez lui, et cette peur a grandi à mesure que se développait sa désagrégation mentale. Et ces contes deviennent d'autant plus fantastiques que Maupassant est étreint par une plus grande peur.
Et devient de plus en plus malade.
Il est très intéressant de voir et de suivre de conte en conte les progrès de cette maladie. Parce que chez Maupassant, le fantastique n'est pas d'ordre poétique, il est d'ordre physiologique, il faut dire la vérité, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que chez lui, fantastique égale folie. Et les prodromes de cette folie ont été étudiés par Maupassant avec une lucidité extraordinaire dont peu d'hommes sont capables, parce que, en même temps qu'il avait peur, eh bien, ça ne l'empêchait pas de prendre son porte-plume et d'étudier sur lui-même les ravages de la folie.
C'était l'écrivain réaliste, là.
Là, il était réaliste, n'est-ce pas ? Sûrement.
Alors, beaucoup de choses, Martine Rigg, dans ce que dit ici, ou plutôt ce que disait Marcel Schneider en 1966, peut-être pour commencer sur la question de la peur chez Maupassant et de cette peur qui se retrouve dans les récits fantastiques. Est-ce que vous souscrivez à ce que disait Marcel Schneider ?
Ah oui, je pense qu'on peut effectivement traquer partout cette peur. Elle prend mille et une formes. Il est vrai qu'à la fin, on a un peu l'impression, ce que suggère aussi le commentaire, qu'on est dans quelque chose de type pathologique. Et on utilise trop volontiers aujourd'hui le mot de paranoïa, mais il faut l'entendre au sens clinique du terme. Il y a certainement, de la part de Maupassant, conscience qu'il perd pied, littéralement, à cause des effets de sa maladie, maladie dont à l'époque, sur laquelle on a des informations très imprécises, et d'ailleurs toutes les syphilis ne se terminent pas de manière aussi tragique, mais il n'empêche que autour de la peur et de la paranoïa, il y a aussi la question, et tout ça est lié bien entendu, de l'identité, c'est-à-dire ce qu'on entend dans le horla, qui suis-je, mais qui suis-je donc ? Et là, c'est un autre fil. Hein. Il y en a plusieurs, évidemment, pour lire les nouvelles de Maupassant, mais c'est un autre fil.
Mais pour vous, l'identité, c'est primordial et ça passe quasiment dans toutes les nouvelles, cette question-là d'identité.
Disons qu'on l'entend de manière récurrente. Je pense que l'intérêt, c'est qu'on a déjà évoqué, justement, les questions de masculin-féminin, les questions de sexualité, etc. Je pense que l'intérêt d'un massif aussi considérable, c'est de donner à entendre toutes sortes de positions. Et à la fin, évidemment, elles se répondent, d'autant que dans le cas tout à fait exceptionnel de Maupassant, on a une fin rapide, puisqu'il y a en réalité 10 années, un petit peu plus, de production littéraire absolument formidable, et qui va 10 années qui vont se terminer de manière absolument tragique, c'est-à-dire il cesse d'écrire, il meurt quelques mois plus tard.
Et sur cette idée du glissement vers une littérature de plus en plus fantastique, est-ce que vous l'avez senti en travaillant sur les contes, littérature fantastique qui serait à mettre en lien avec la progression de la maladie et de la peur?
Oui, personnellement, je résiste un peu à l'idée de considérer toujours que la vie va expliquer l'œuvre.
Oui,
je pense
entendu.
qu'il y a une autonomie de l'œuvre à laquelle il faut rendre justice. Et il n'est pas vrai que chacune des nouvelles, au fond, est une sorte de la preuve d'une lente dégradation de l'esprit de Maupassant, puisque très habilement, il arrive quand même aussi à retrouver le ton de ancien dans les dernières nouvelles. Tout n'est pas absolument effroyable et fantastique. Mais il est évident, et peut-être parce qu'on a quand même tendance à projeter justement la fin sur les dernières productions littéraires, il est évident qu'on entend aussi forcément, il y a un lien de quelque nature.
Vous parlez d'un principe unique de récit. Enfin, quand je dis vous, c'est en réalité Pierre Bayard que vous reprenez. Ce principe unique de récit, ce serait quoi finalement, qui reviendrait aussi dans les contes et les nouvelles? Cette conscience d'une idée étrange qui l'envahit peu à peu.
Oui, c'est effectivement la position de Pierre Bayard dans un excellent ouvrage critique, à mon sens un des meilleurs, appelé Maupassant juste avant Freud, où justement il montre bien qu'il y a chez Maupassant cette interrogation constante sur mais qui sont ces personnages, mais qu'est-ce que c'est que cette vie-là, mais qu'est-ce que c'est que la peur qui est irrépressible, qu'est-ce que c'est que ce principe de désillusion systématique, que faire avec tout ça. Alors évidemment on n'est pas dans un essai philosophique philosophique, on est dans une littérature qui se veut légère, ça c'est le paradoxe d'ailleurs, et grivoise ce qu'il faut, mais qui va quand même semer, justement, entre autres par l'accumulation et la quantité, un nombre de pistes tout à fait extraordinaires et de nouveau, bien sûr, vraiment singulières.
Par exemple, sur cette idée de la folie, ce qui est assez symptomatique, c'est cette main décorchée que Swinburne lui a donnée et qu'il va garder toujours avec lui. Comment voyez-vous ce rapport avec cet étrange objet quand même ?
L'objet est étrange, l'anecdote, pour autant qu'elle soit vraie, est étrange aussi. C'est une sorte de passation de pouvoir littéraire d'une étrange manière, puisque c'est la main aussi. Et donc, là, Maupassant fait preuve. Oui, on donne la main, on donne cette main-là, justement, écorchée. Et donc, je pense que là, Maupassant fait d'emblée preuve d'un remarquable sens de l'imagination. Et puisque c'est sa première nouvelle, en 1875, si je me souviens bien.
Alors tout à l'heure, vous avez commencé à parler, Martine Reed, de la collaboration de Maupassant avec les journaux. Mmh. Et je ne vous ai pas laissé terminer, car je voulais qu'on développe un peu plus dans cette deuxième partie. En quoi est-ce que le fait qu'il ait tout publié, quasiment d'abord dans des journaux, a pu influencer l'écriture des contes et nouvelles de Maupassant ?
Mais je pense qu'il a trouvé le... Au fond, il y avait deux avantages à publier dans une multitude de journaux, mais principalement le Gil Blas, qui était une revue un peu grivoise, mais qui avait un énorme succès à l'époque, qui sera défendu d'ailleurs par Zola à un moment donné, et dans le Gaulois, qui est un journal conservateur, qui sera finalement racheté par le Figaro d'ailleurs. La posture de Maupassant, c'est que au fond, il y a là, quand on est pressé, une manière idéale de pouvoir disposer de quelques pages pour construire une anecdote et la mettre en forme. L'autre avantage, c'est qu'évidemment, on est payé à la nouvelle et que donc Maupassant, qui effectivement vit de sa plume après avoir été quelque temps dans un ministère, va trouver une sorte de double avantage. Assurément, la formule brève lui convient. Assurément aussi, c'est une manière d'être présent partout et de pouvoir publier à un tas d'endroits et de pouvoir aussi être payé, et on le sait, assez confortablement.
Et peut-on parler d'un ton aussi inspiré par le journalisme, ou est-ce que c'est déjà allé trop loin ? Dans la clarté, par exemple, du style.
Je pense qu'on peut parler de ton et on peut parler de style. Le ton se retrouve chez d'autres écrivains à l'époque, qui travaillent eux aussi, comme Armand Silvestre, par exemple, qui va lui aussi écrire toute une série de nouvelles et publier ensuite en volume, etc. Enfin, ils sont un certain nombre à procéder de cette façon. Le ton sera un ton à la fois goguenard et grivois qu'on entend chez Maupassant. Ce n'est pas le seul, mais on l'entend. Quant au style, évidemment, il y a la nécessité de faire clair en quelques pages, de faire vite et bon. Et ça convient assurément, idéalement, à Maupassant.
Est-ce qu'on sait comment il travaillait ces nouvelles ? Il les écrivait au fil de la plume, ou est-ce qu'au contraire, il y revenait beaucoup ?
Non, justement, je pense que ce qui est assez remarquable et que les manuscrits laissent entrevoir, c'est qu'il y a très peu de corrections chez Maupassant et qu'il a été dit qu'il était de ces écrivains qui, au fond, ont la nouvelle en tête, ont l'anecdote en tête, ont la trame en tête, et puis véritablement la jettent sur le papier, sans presque pas de rature.
Je suis prêt à aller ken, t'en m'enrôle pas. L'amour est mort en bas, nous mourrons pas. Check. Entends-tu les cris dehors, parmi les crimes et les hors-là? Loi, combien sont morts en passant devant l'horloge? Moi, je suis qu'un passant qui te décrit ce décor-là. Je me sens comme au passant quand il écrive et le hors-là. J'entends des cris dehors, parmi les crimes et les hors-là. Loi, combien sont morts en passant devant l'horloge? Moi, je suis qu'un passant qui te décrit ce décor-là. Je me sens comme au passant quand il écrive et le hors-là. Je me sens hypocrite. Je plonge dans les tentations volontairement, ouais. Un péché en plus, un billet en moins. Je tue doucement la concurrence, tous habillés en noir. On n'a pas le temps d'attendre ton enterrement. Je pense à ceux qu'on s'est mis à dos. Je vois mon seum me sémiller, t'es sémillé de s'aimer que sortir le semi-auto. On est tous responsables en partie du monde que l'on bâtit. L'égoïsme et le manque d'empathie, tout le monde empathie. Ce qu'on vole, on le repère. De quoi tomber pour recèler dans le repère. Dans la jungle urbaine, sous tenue camouflage pour qu'on me repère. J'ai percé en Inde et je suis frais. Ce monde est régi par des chiffres et pour comprendre faut déchiffrer. Ton patron t'a jeté, tu galères pour t'acheter. Les nouvelles paires en étant bernées par les reportages télé. Tu vis dans un monde où l'État peut te piller ou t'es pillé.
Vous avez vu, Martine Reed, comme les jeunes générations s'emparent de Maupassant. Quel succès tout de même, Nekfeu en l'occurrence, qui chante le Orla.
Oui.
Le succès ne se dément pas finalement.
Le succès ne se dément pas, et d'ailleurs il y a une bande dessinée, j'en oublie l'auteur, mais qui est remarquable, faite à partir du Orla justement.
Ouais. Mais qu'est-ce qui fait quand même que ce succès ne s'est jamais démenti selon vous au fil des années et jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que c'est l'école qui transmet comme ça l'intérêt pour Maupassant?
Je pense que l'école en est largement responsable, mais pas uniquement, et on a presque envie de dire heureusement. C'est-à-dire que, on l'évoquait tout à l'heure, on peut revenir à tout âge sur les textes de Maupassant et que toutes les lectures sont possibles. La grande force, c'est précisément d'arriver à susciter l'intérêt de publics multiples. Parce qu'au fond, les questions fondamentales sont posées. Au-delà des mille et une anecdotes normande ou pas d'ailleurs, l'intérêt est là de poser des questions très fondamentales sur celles qu'on a évoquées, l'identité, les rapports des gens les uns avec les autres, etc.
Et sur la bêtise aussi peut-être, parce que parmi les thèmes qu'il évoque, il y a ce thème-là de la bêtise qui revient dans ses contes et nouvelles, Martine Reed.
Oui, assurément, et là on sent le disciple de Flaubert. Il me semble que toutefois, la bêtise chez Maupassant est plus désespéré, parce que il y a chez Flaubert une sorte de bonté fondamentale, et on l'entend dans la correspondance avec George Sand, par exemple, qu'il n'y a pas chez Maupassant. Maupassant est plus cynique, pour toutes sortes de raisons qui tiennent à son existence, à sa manière de concevoir la vie et sa carrière littéraire aussi. Et donc la bêtise est là, mais dans un sens, elle sert de preuve supplémentaire au caractère absolument désolant de l'être humain qui n'est guère racheté par quoi que ce soit.
Alors ça qui est bête chez Maupassant? Bon, ce sont par exemple dans Boule de Suif les horribles bourgeois.
Oui,
qui
mais Boule de Suif aussi. Oui, mais Boule de Suif aussi est très bête. Là aussi, on a le cliché de la prostituée au grand cœur. Elle pleure de honte. Elle n'a rien compris à rien dans un sens.
Donc elle n'est pas rachetée particulièrement par Maupassant non plus.
Moi, je ne trouve pas. Je trouve que Boule de Suif est d'ailleurs, on l'a entendu dans la description relue par Guillaume Gallienne, c'est-à-dire Boule de Suif est un objet à consommer, comparé à une pomme d'ailleurs. Et donc, elle est bête avec les autres. Elle est bête autrement, mais en réalité, il y a une sorte de bêtise fondamentale de l'être humain que rarement sauvé. Alors, il faut dire que de temps en temps, quand même, des actions généreuses, il y en a chez Maupassant.
Comme par exemple.
Je pense à une nouvelle qui s'appelle Le Fils de Simon, où on a une jeune femme qui a été enceinte, une jeune femme de la campagne, justement, qui est enceinte et puis dont l'amoureux disparaît. Elle épouse quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre, en réalité, est ravi de servir de père à l'enfant qu'elle a. Et la nouvelle se conclut. C'est aussi une histoire assez semblable dans l'histoire d'une fille de ferme, si je me souviens bien. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on a quelqu'un de généreux. Et c'est rare, parce qu'on sait bien que la paternité et tout ce qui est enfant, maternité, reproduction, etc., déplaît souverainement à Maupassant, qu'il y en a une horreur absolue. Et ça, on l'entend aussi très nettement dans les nouvelles.
Dans la parure, tout de même, dont on parlait au début de cette émission, le mari est tout de même très généreux avec sa femme.
Oui, tout à fait. Par exemple, dans la parure, le couple est solidaire. Et ils acceptent l'un comme l'autre de mener 10 années absolument effroyables.
Alors que c'est elle
qui a fait l'étourdie, voilà, et qui a perdu la parure en question. Donc de loin en loin, on trouve des actes généreux, généralement du masculin d'ailleurs.
Ouais. Mais en même temps, il est un peu bovaresque,
tout à fait,
lui aussi.
Tout à fait,
parce que
comme la scène elle-même d'ailleurs.
Pendant la scène du bal, où sa femme s'amuse énormément, on en apprend que lui est avec quelques autres maris dès minuit, hein, ils vont partir à 4 heures du matin, dès minuit, lui, il est à côté, il commence déjà à s'endormir, donc il est gentil, mais il est tellement décevant.
Oui, assurément, et ça,
et là,
bien sûr, on entend le souvenir de Madame Bovary, de la fameuse fête au château de Vaubyessard, etc., qui est repris en partie dans la parure.
Autre thème, l'intérêt. la concupiscence, l'argent.
Oui, l'argent partout présent, dans la parure évidemment, puisqu'il s'agit d'argent et il s'agit de voir quel sacrifice il va falloir faire pour s'en passer. Et là, Maupassant lui-même indigent, courant le cachet, etc., fait entendre la force, le poids considérable de l'argent, l'intérêt, toutes les pratiques qu'il suscite, plus abjectes les unes que les autres. Il y a évidemment une dénonciation en même temps qu'un constat pathétique de son importance et de la manière dont il avilit le monde.
Même si lui, mais bon, il paraît qu'il ne faut pas parler trop de biographie, lui, il a quand même un peu couru après l'argent et puis il négociait quand même de manière très âpre, même quand il a eu beaucoup d'argent avec les journaux, avec les éditeurs. Donc il n'était pas non plus détaché, évidemment, de tout cela. Pour terminer, puisque vous commencez votre préface, Martine Reed, sur cette question qu'on a déjà un petit peu abordée du lien entre la vie et l'œuvre, est-ce que, au fond, le fait qu'il ait intitulé son principal roman « Une vie », qui est quand même vraiment le roman d'une biographie, ne nous dit pas quand même quelque chose, et le fait aussi qu'une vie soit particulièrement autobiographique, ne nous dit pas quelque chose de cet entrelacement entre la vie et l'œuvre chez Maupassant?
D'abord, je pense que l'entrelacement est inévitable. Quelle est l'œuvre qui ne se nourrit pas de l'expérience vécue? Il n'y a pas d'exception, je pense. Dans le cas de Maupassant, c'est plus difficile. Une des choses que je dirais pour ma part, c'est que j'ai été très frappée par la formidable maîtrise qu'il faut pour produire en si peu de temps une œuvre aussi considérable, alors que la vie privée est une succession de désordres dans tous les sens.
Un grand merci à vous, Martine Reed, d'être venue nous voir aujourd'hui. Je rappelle que Contes et Nouvelles de Maupassant est un gros volume disponible en quarto chez Gallimard dans une édition que vous avez réalisée avec Louis Forestier. Demain, dernier épisode de cette série consacrée à Maupassant, nous parlerons de mort et de petite mort, de folie et de prostitution. Ce sera avec Patrick Wald-Lazowski et Daniel Grojnowski. Mais tout de suite sur France Culture, vous avez rendez-vous avec la poésie choisie et interprétée pour nous comme chaque jour par Jacques Bonafé.
Bonjour, continuons à venger les mots. Suivons Serge Pey, poète. Il est né en 1950 à Toulouse. Serge Pey est un enfant de la guerre civile espagnole et de l'immigration. Sur le site Poésie d'action de Serge Pey, au signé international du rythme, nous tombons sur des témoignages comme autant de poèmes des amis, des confrères, des frères de planche et d'oralité, des poètes amis de Serge Pey, ainsi celui d'Abdelatif Lahabi. Serge Pey, en tant qu'homme et poète, n'est pas du genre à s'inscrire ou se laisser circonscrire dans un livre, car il appartient à cette rébellion du dire qui traverse les cultures, remonte le cours des mémoires collectives, chevauche les temps qui appartiennent ou non à ce qu'on appelle l'histoire et s'inscrit en faux contre le mandarinat des scribes. Sa poésie s'adresse à cette grande tribu fraternelle qui marche dans la nuit barbare. Que dis-je ? Elle participe déjà du chant général de cette marche. À la fin de Venger les mots, dernier poème, la petite pharmacie lyrique portative du docteur Erich Kästner. Qui se souvient de la petite pharmacie lyrique portative du docteur Erich Kästner, qu'une jeune fille appelée Tosia offrit le 2 juin 1941 à Marcel Reich Ranicki dans le ghetto de Varsovie? Qui se souvient de ces vers? Nous sommes tous assis dans le même train et voyageons à travers le temps. Qui se souvient de la fin du poème? Nous sommes tous assis dans le même train et beaucoup sont dans le mauvais compartiment. Ce matin de Noël, en regardant la crèche dans les arbres électriques des hommes imbéciles, je pense à toi. J'ai envie de tuer l'âne, j'ai envie de tuer le bœuf. Alors je continue le poème en pensant à toi, en changeant simplement quelques mots. Nous sommes assis à la même table et beaucoup n'ont rien dans les assiettes. Nous sommes en train de boire dans le même verre et beaucoup n'ont pas d'eau pour se désaltérer. Nous avons dans la main la même allumette, et beaucoup n'allument pas le même feu. Nous sommes en train de chanter le même poème, et beaucoup n'ont pas de bouche pour l'embrasser. La lune ferme le puits comme un bouchon. Pourtant, en bas, le seau attend la chaîne pour attacher l'eau. Dehors, la nuit se lave et je ne suis pas nu devant son corps de femme déshabillé. Et Sébastien Lespinasse fait une ronde pour Serge Pey. Tout tourne autour de tout, tourne autour, tour à tour, en retour, tout tourne et danse et tourne et chante et tourne et s'en retourne en terre, en peau de chagrin. Ça grince tout autour, tout tourne en l'air, en peau d'air, en poème, en errance, tourne autour, tout autour, tourne, errance, tourne, tourne autour, tout autour, tourne, route, errance, tourne, la route, tourne, la déroute, reste, certes, sans retour. Qui sème le vent, qui sème l'envie, qui sème ce qu'il sait, ce qu'il est, ce qu'il sait arriver, qui sème, qui sait, qui est sans fin, en feu qui tourne sans fin, autour de la nuit qui tourne sans fin. C'est les poètes qui sait qui sème le son, qui sème le sens, recolle, écoute, récolte, l'air, l'errance, le rien qui danse lentement dans ce langage de silence, enfoui sous nos pieds d'encre, nos poteaux d'angle, nos pierres blanches, nos traces dans la terre mouillée.